Salut tout le monde, re-bienvenue après une longue pause, quand même près d'un mois d'interruption pour les vacances estivales qui ont été productives et qui ont fait mal pour à peu près tout le monde. On y reviendra tout à l'heure. Olivier Brett, très heureux de vous retrouver en compagnie de Jean Gounel et Sydney Faure. On va relancer ça pour ce qui est déjà le dernier droit de l'été, mais surtout le grand droit vers la Coupe du Monde. On va avoir le droit, l'opportunité d'en parler en long et en large au cours des prochaines semaines, des prochains mois. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, je veux pas trop brûler la mèche, là, mais on aura un ajout de Loin de s'en foutre. C'est le projet en ce moment spécifique pour l'approche de la Coupe du Monde. Donc, on a très, très hâte de vous présenter ça. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Les vacances pour Céd et moi, Jean, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un brin douloureux, agréable, mais douloureux. Du temps en famille où Céd a vu son dos amoché. Moi, ça a été une clavicule fracturée. Toi, as-tu survécu? Es-tu en un morceau?
OK. Écoute, ouais, ça va, t'as un petit ajout, mais c'est bon, je vois mieux, j'en profite, quoi, c'est parfait.
Oui, tu parles des lunettes, magnifique. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent seulement en ce moment. Les gars, on va y aller tout de suite. On va sauter dans le vif du sujet avec notre segment à domicile, si vous le voulez. On va revenir après ça avec ce qui s'est passé en Europe, parce que ça a déjà été le début de plusieurs championnats le week-end dernier. Et on répondra aux questions qui ont été nombreuses à nous être posées sur Twitter au cours des dernières heures. On va commencer, Céd, on en a parlé toi et moi, on a le plaisir maintenant de faire la description des matchs à la radio ensemble du CF Montréal. On était au Stade Saputo pour ce match nul de 2-2 du CF Montréal face à Miami. Et tu me disais que maintenant, les objectifs doivent plus être de simplement faire les séries et de dire que après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On va se concentrer sur les séries quand elles arriveront. L'objectif maintenant, c'est de jouer un match de séries éliminatoires à domicile, donc de finir dans le haut du classement. Alistair Johnson disait la même chose après le match. J'ai eu l'occasion de parler avec Olivier Renard hier. Lui disait la même chose. À quelque part, c'est peut-être la grande satisfaction, avec 10 matchs quand même à jouer, de dire que c'est ça l'objectif qui est maintenant dans la mire des Montréalais.
Oui, tout à fait. Les attentes ont changé du côté du CF Montréal. Tout simplement, le fruit d'un travail de tiers de saison où l'équipe se retrouve aujourd'hui troisième au classement et a montré dans le contenu qu'elle avait rien à envier à l'ensemble des équipes de la conférence Est et j'y inclus l'Union de Philadelphie. On a une équipe qui est sur 5 matchs sans défaite, qui retrouve l'ensemble de ses joueurs cadres au meilleur moment. Un coach qui arrive à mettre son empreinte dans le jeu. Et on a des exemples de caractère et de valeurs de solidarité qui font en sorte que cette équipe est capable de se sublimer. Donc, tout ça mis bout à bout avec un public qui reprend aussi son rôle. On parle quand même de 3 salles à 19 000, 18 000 personnes au Stade Saputo. On a tout un environnement qui permet à Montréal de vraiment regarder de l'avant et donc d'aller sur cette fameuse série, mais à domicile. L'idée n'est plus simplement, comme dans les 4 dernières années, d'aller essayer d'accrocher la place, que ce soit à ligne rouge, comme ça a été le cas, mais là, véritablement, d'aller chercher un match à domicile durant les séries et puis pourquoi pas aller à côté des destins de 2015-2016 où on est parti dans les demi-finales et finales de conférence de l'Est. Mais ces attentes-là, elles sont aussi celles du public. Peut-être malheureusement, mais on va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on a un public qui est aussi exigeant, qui voit des matchs nuls plutôt à saveur de défaite. Tu rencontres New York CFC qui est devant toi au classement, qui est une équipe les plus impressionnantes de l'Est, deuxième meilleure attaque, deuxième meilleure défense, et tu n'es pas satisfait d'un 0-0. Tu penses que tu as échappé des points contre Miami sur ce 2-2. Et il faudra aussi vivre avec cette exigence-là où on attend vraiment beaucoup du club. Donc c'est une pression supplémentaire qui pourrait peut-être à certains moments biaiser l'analyse qu'on peut faire des performances du CF Montréal. Et c'est important de faire ce pas de recul-là, parfois même 2 pas de recul, parce que si on prend les 5 dernières saisons, il y a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui, et s'assurer que sur les 10 prochains matchs, à la fois on se prépare pour les séries, mais à la fin on est capable de dire aux gens, regardez ce qu'on a réalisé.
Jean, je veux t'entendre après sur la contribution de Wilfried Nancy là-dedans et de sa situation contractuelle, mais juste pour conclure, Céd, Comment tu le vis en ce moment? On en parlait ensemble après la rencontre de samedi. C'est vrai que les gens sont déçus. Puis personnellement, tu regardes ce que Miami a présenté en première mi-temps, tu te dis que tu ne peux pas vraiment, à la maison, échapper deux points face à une équipe comme ça. Une équipe qui a été bien meilleure en deuxième mi-temps, c'est clair. Mais t'espères, quand tu veux avoir une place en série à domicile, être capable de disposer d'équipes comme Miami. En même temps, est-ce que c'est moi ou il y a 3-4 ans, un match comme ça, on aurait tout remis en cause? Tu sais, ça aurait été, bon, cette équipe-là a des problèmes, elle n'est pas capable de tenir, puis on serait tombé dans un cynisme hallucinant où tout aurait été noir. Là, il y a le sentiment de frustration que tout le monde a le droit de vivre. Tu es un supporter de ton club, tu veux que ton équipe aille chercher les trois points. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout le système, tout le projet qui est remis en cause après une déception comme ça. Et je ne me rappelle pas beaucoup de saisons où on a eu ce feeling-là, où on était capable de faire la part des choses. Est-ce que je me trompe, Sim?
Non, mais en même temps, comme je le rappelais, le classement donnait raison à ceux qui voulaient tout remettre en question. On est avec l'édition de Wilfried Nancy dans une équipe qui est gagnante, largement gagnante, record de victoires sur la route, notamment pour appuyer mes propos. Et on a un style de jeu qui est très défini. Je pense que ce qui est super intéressant, c'est que tout le monde voit ce que l'équipe est capable de faire. On a déjà vu ce que l'équipe fait, donc c'est même pas juste dans une potentialité. Maintenant, s'attendre à ce que le CF Montréal remporte tous les matchs, s'attendre à ce que Mihailovic ait la forme de début de saison où il marque autant de buts qu'il fasse de passes, s'attendre que Kyoto, par exemple, qui en ce moment est très chaud, maintienne cet état de forme jusqu'à la fin de saison. Peut-être que ce sont des attentes qui sont un peu au-dessus de ce qui est réalisable, mais c'est la conséquence de performances qu'ils ont livrées. Et le plus important du côté de Wilfried Nancy, parce qu'effectivement les supporters ont le droit d'être frustrés ou de s'enflammer, c'est en plein dans leur rôle. Mm-hmm. Mais ce qui est important du côté d'effectif de Wilfried Nancy, c'est de garder le cap.
Oui, et c'est ce qu'on a quand même réussi à faire parce qu'il y en a eu des passages à vide en tout début de saison. Il y en a eu un autre après cette fameuse séquence de 8 matchs sans défaite. C'était à la fin du printemps, début d'été, si je ne me trompe pas, Jean. Je pense que c'est une des grandes qualités de Wilfried Nancy d'être capable de rester à flot dans les moments où on pourrait s'emporter très positivement, puis dans les autres où on pourrait se retrouver dans un trou noir. Sa situation contractuelle. Bon, il y avait 2 ans, en fait, il y avait 1 an à son contrat avec 2 années d'option. On est dans la deuxième année d'option. Il y a toujours la possibilité d'enclencher une année d'option pour l'an prochain. En même temps, moi, ça c'est mon opinion personnelle, je ne te fais pas porter ces propos-là, Jean, mais j'ai de la difficulté à voir comment tu peux trouver un entraîneur ailleurs, ne serait-ce que dans 1 an et demi, pour venir et faire le genre de travail qu'on demande à un coach à Montréal maintenant, parce que c'est un tout autre projet que ce qu'on demandait à Thierry Henry peut-être en partie, mais surtout à Rémi Garde et à Mauro Biello. Est-ce qu'il y a une urgence de lui faire signer un contrat ou de simplement exercer son année d'option pour l'an prochain, ce qui est une évidence? Je pense à ce stade-ci, ce serait suffisant?
Écoute, le fonctionnement exact du système, je ne sais pas très bien. Ce que tu veux, c'est le mettre dans les meilleures conditions possibles, envoyer un message disant que tout te va parfaitement bien parce que c'est aussi une dynamique. Et là, on parle, ce contrat, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'image que tu vas renvoyer de la dynamique club-entraîneur et en particulier Olivier Renard, Wilfried Nancy, d'accord? Mmh. Et c'est un élément, si tu l'ajoutes à ce qui se passe sur le terrain actuellement, qui va intéresser des joueurs à venir, d'accord? C'est ce qui va te dire, oh, ok, je vais aller là-bas parce que ça a l'air d'être sérieux, ça a l'air d'être cool, ça a l'air de bien marcher, ça a l'air d'être tout le monde a le sourire. Ouais, les gars ne sont pas à tous se mettre sur la tête dès qu'ils perdent un match. Et, c'est l'atmosphère, l'image que tu dégages. Pour revenir à Wilfried Nancy, tu vois clairement aussi, on a pu voir le personnage que c'était là depuis quelques temps, depuis plusieurs mois même. On voit bien qu'après la série compliquée de tout début de saison, il ne s'est pas tapé sur la tête. Il a dit, ok, il faut qu'on réfléchisse, qu'on travaille, qu'on continue, parce qu'on voit des bonnes choses, il faut continuer de les mettre en pratique. Quand il y a eu une excellente séquence qui a suivi tout de suite, il ne s'est pas emballé non plus. Il a dit, ok, là, on est en train de mettre quelque chose en place, mais on sait très bien, c'est la MLS, on sait très bien que c'est avec un certain nombre de limitations, en tout cas de si. C'est-à-dire que ça va progresser, mais ça ne va pas être comme ça tout le temps non plus. Et on voit le résultat aujourd'hui. On voit une équipe qui a quand même beaucoup progressé dans son expression collective. Ah ouais. Il y a des points très positifs sur lesquels, moi, personnellement, j'avais extraordinairement de doutes, en particulier sur le, sur le côté droit. Quand tu m'as annoncé que Johnson signait, je disais, mon Dieu, ça va être 30 coups francs à 20 mètres qu'on va concéder. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il s'est sérieusement contrôlé. Waterman a connu une progression remarquable, vraiment. Il y a un nombre de joueurs qui ont compris vraiment du coffre, compris un rôle. Il est certain que, Steve le soulignait, bon, ben, quand tu as Mihailovic qui va bien pendant une période, c'est parfait, mais dès que ça ne va pas bien, et ça, je tourne à peu près aux alentours du match contre Salt Lake, hein, qui a, et son absence, eh ben, tu as Kyoto qui a été là tout de suite pour rentrer les buts. Tu regardes la production en masse des deux, correspond un petit peu à ces deux périodes-là. Entre les deux, tu as un Kay Camara qui est capable de faire la soudure, en attendant que sur le dernier match, éventuellement, un autre joueur, lui aussi, apporte un certain niveau de contribution, peut-être. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du collectif qui a pris forme et qui a pris de la solidité, de la consistance durant la saison cette année. Et quand tu vois la position troisième, tu dis... Bon, c'est clairement tu te projettes déjà sur la pré-saison c'est pas que tu es simplement un prétendant, tu es un prétendant sérieux quand tu es troisième. Quand tu es troisième, tu vises une finale d'association, point.
Donc, c'est de ma question.
Plus bas.
Pourquoi on n'a pas encore prolongé le contrat de Wilfried Nancy avec
non, mais c'est vrai, oui, je reviens à ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, c'est l'image que je voudrais envoyer.
Parce que, ben exactement, et c'est exactement ce que j'ai eu l'occasion de lui poser la question hier, d'ailleurs, Olivier Renard. J'ai dit, tu sais, je trouve qu'il y a un clash intéressant, intriguant, entre la décision de Renard l'an dernier, quelques mois après l'arrivée de Wilfried Nancy en poste, c'était après trois, souvenez-vous, là, au mois de mai, après trois défaites consécutives, c'est là où Olivier Renard a dit, moi, j'exerce tout de suite ton option, pour l'année prochaine, et on était loin de 2022 à ce moment-là, mais souvenez-vous, le message était tellement fort qu'il était envoyé à tout le monde, au marché, déjà au vestiaire, qui aurait pu commencer à se poser des questions en disant, moi j'ai signé pour Thierry Henry, j'ai pas signé pour qui? Wilfried Nancy, l'adjoint, et je trouve que ça avait été tellement moteur de confiance en les gens qui étaient en place. Et quand j'ai fait la comparaison à cette année, en disant, ben là, tu sais, ça va super bien, puis il n'y a pas de prolongation encore, Olivier Renard a dit la situation est différente parce que l'an dernier, c'était justement la crédibilité, l'autorité, je paraphrase, là, de Wilfried Nancy, qui était moins connu, qui était moins en selle, que je voulais consolider parce que je voyais et j'entendais les bonnes choses, j'y croyais. Là, on est dans une position différente avec une année d'option pour l'an prochain et surtout une saison qu'on ne veut pas... on veut se concentrer sur les bonnes choses, on va attendre à la fin de campagne. Ça m'amène à te relancer la question à toi, Sid. En même temps, on réfléchit à ça d'une perspective analyste, peut-être d'une perspective supporter, joueur, club, mais il y a la perspective Wilfried Nancy aussi là-dedans. T'sais, je pense pas que c'est un gars prétentieux, mais en même temps, il était à la mi-saison entraîneur de l'année pour le reste de la Ligue. Là, si tu rentres dans une année d'option, sans le prolonger, est-ce que tu risques pas de le perdre parce que tu le mets pas dans des conditions qui reflètent ce qu'il vaut dans le marché?
Forcément, c'est un scénario qui est possible. Maintenant, il y a peut-être, comme on dit, le diable est dans le détail, et on a, que ce soit sur 2 ans, 3 ans, des prolongations par rapport à certains membres du staff. Il y a tellement de paramètres qui sont à prendre en considération que peut-être
c'est tout à fait justifiable. Mais si on rentre juste dans une année d'option, Sid, si on prend le contexte là où on fait juste, dans le fond, ma question, c'est est-ce que ça prend une prolongation ou est-ce que juste rentrer en 2023 avec l'année d'option, c'est suffisant?
C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'on a un chat échaudé qui craint l'eau froide. Il y a un moment donné où trois coachs étaient sur le payroll du CF Montréal / Impact. Donc, on a sûrement envie de prendre la décision dans le meilleur timing possible. Maintenant, je pense que pour un coach, justement, qui est local, cette situation d'incertitude et moins problématique que ça le serait pour un coach étranger qui, en plus de pas être dans son territoire, doit subir la saison MLS qui est un calendrier qui est à contre-courant des calendriers européens. Mais je pense pas que ce soit nécessairement problématique dans le cas de Wilfried Nancy. Maintenant, c'est vrai que lorsque je pose la situation actuelle avec celle de son renouvellement, parce que je suis parti chercher un peu les mots d'Olivier Renard en mai de 2021, je prends cette décision maintenant parce que je vois le travail qui est effectué chaque jour, la philosophie de jeu durant les matchs, la relation entre les joueurs et le personnel d'entraîneur qui est très positive. Je suis confiant pour le futur. Je me dis qu'on a progressé à tous les chapitres possibles et imaginables entre mai 2021 et aujourd'hui, et que je pourrais légitimement m'attendre à ce même communiqué pour Wilfried Nancy. Maintenant, il est possible que d'un point de vue des négociations, Wilfried Nancy aurait tout intérêt à avoir une prolongation qui arriverait plus tard lorsqu'il pourra dire que regardez, on a fait une finale de conférence de l'Est, on était troisième en saison régulière comme ça l'est aujourd'hui. Donc il y a peut-être des deux côtés un jeu de négociation qui est parfaitement sain et pas inquiétant. Si on a la même discussion en fin d'été prochain, là, c'est sûr que je me poserai plus de questions.
Et si on rentre le fait que Joey Saputo, il y a un mois à peu près, criait après Gabriel Gervais parce qu'il n'était pas content du travail de Wilfried Nancy. Est-ce que là, tout d'un coup, on se pose des questions? Parce que moi, personnellement, là, quand je revire tous ces scénarios-là, si je pense exclusivement à Olivier Renard et Wilfried Nancy, je me dis, ces gars-là, incluant Gabriel Gervais, ces gars-là sont trop cohérents depuis le début pour qu'on ne trouve pas un terrain d'entente. Regarde l'an passé, les Ahmed Hamdi et compagnie qui ont été prolongé, c'était en cours de saison, Sid, si je ne me trompe pas, là, la saison n'était pas terminée, et on sentait qu'on était capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Olivier Renard, s'il y a une chose qui fait bien depuis le début, c'est de laisser partir des gens qui coûtent trop cher ou les renouveler avant qu'ils coûtent trop cher, aller les chercher à moindre prix. Mihailovic, 1 million, quand tu vas le chercher avec de l'argent d'allocation, il vaut beaucoup plus que ça en ce moment, même s'il est dans un passage un peu plus difficile. C'est là où j'ai de la difficulté à concevoir pourquoi Olivier Renard, puis c'est la pure spéculation en ce moment, pourquoi tu parierais sur un parcours en série qui va te coûter plus cher? T'sais, la situation que moi j'ai en tête en ce moment, là, c'est Nacho Piatti à l'époque de son dernier contrat. En janvier, il y avait l'occasion de discuter, de signer un nouveau contrat. On ne l'a pas fait. Et à 10 matchs de la fin de campagne, Nacho Piatti drop the mic au Stade Saputo, joueur du match, puis il dit: il me reste 10 matchs à Montréal, je vais essayer d'en profiter. La panique pogne, ça a coûté minimum 1 million de plus à Joey Saputo et ceux qui étaient en place qui ont fait signer le contrat à cette époque-là. Est-ce qu'on va en venir à ça aussi? Est-ce qu'on est en train de parier? Pour moi, tu n'es pas en mode pari, tu as les bonnes personnes en place. L'organigramme du CF Montréal, du 11 Montréalais, n'a jamais été aussi cohérent et solide. C'est une des seules, pour moi, anomalies. Pas qu'on soit en train de dire, parce que c'était différent, puis encore une fois, Sid, corrige-moi là-dessus si je me trompe, quand t'entendais Gabriel Gervais parler d'Olivier Renard à son arrivée, ça a traîné aussi là, l'histoire d'Olivier Renard. Pour moi, il aurait dû être signé 6 mois plus tôt. Mais t'entendais, on y croit à long terme, il n'y a pas de problème, on est là, t'sais, puis c'était pas sur la prochaine année, là. On était en train de parler de 2, 3, 4, possiblement 5 ans. Moi, quand j'entends parler de Wilfried Nancy, on parle de l'année d'option. Je sais pas, les gars, mais en 2024, est-ce qu'on veut quelqu'un d'autre à la barre de cette équipe-là? T'sais, c'est là, Jean, où moi, j'ai un peu un feeling d'il y a 5 ans. Puis c'est ça qui m'inquiète. Puis je sais pas si je fais un parallèle qui n'a pas lieu d'être, mais cette sortie-là, ça a été publié dans les médias, là, c'est pour ça qu'on le sait, cette sortie-là de Joey Saputo qui est insatisfait avec Wilfried Nancy pour une raison quelconque et qui va le dire à son président, je me dis, est-ce que c'est ça qui est en train de mettre les freins en ce moment? Si c'est ça, ça m'inquiète. Personnellement, ça m'inquiète.
Oui, OK, je comprends. Et non, je crois qu'il faudrait savoir exactement quel est le problème et le point d'achoppement, clairement, parce que sinon, comme on l'a dit, tout est en place. De la meilleure façon que ça ne l'a jamais été. Et quand on parle de façon dont le club rayonne vers l'extérieur, vers aussi bien son nous, son public, que l'extérieur de sa sphère, disons, de son marché, c'est quand même clairement plus intéressant, clairement plus positif, clairement plus sérieux que l'image que ça a jamais projetée, et même à l'époque où il y avait des gros noms qui arrivaient et qui ajoutaient, je dirais, un clinquant, mais un clinquant un peu artificiel au club. C'est autre chose. Mm-hmm. Là, on a quand même quelque chose avec des solutions internes, avec des ressources internes, avec une réflexion interne, la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Donc, j'aimerais savoir effectivement où est le problème, où est le point d'achoppement, s'il y en a un, qui ne me semble pas majeur, et être capable de passer... parce que jusque-là, et je pense que c'est un point à noter aussi avec le duo, le doublon Renard-Gervais, c'est qu'il y a quand même à ce niveau-là, Gervais-Renard, ouais, pardon, à ce niveau-là, une certaine transparence dans ce genre de situation-là. Mmh. Et c'est peut-être un des points aussi, en dehors de tout ce qui peut être jeu et tout ce qui entoure le côté terrain et Wilfried Nancy, je pense que ça, c'est un des points vers lesquels sur lesquels il y a eu énormément de progression sur les derniers mois.
Oui, tout à fait d'accord. Puis juste pour conclure là-dessus, contrairement à d'autres entraîneurs, parce que c'est le parallèle que tu faisais tantôt avec les coachs qui viennent de l'extérieur, que tu dois... pas convaincre de rester, là, mais il faut que tu t'engages envers eux pour qu'ils ne rentrent pas à la maison. Tu sais, tu as tout le temps la situation familiale. C'est tellement un élément important. Tu as tout à fait raison. Mais là, je pense qu'on doit peut-être commencer à voir la chose à l'inverse. Là. Tu sais, Wilfried Nancy, il ne faut pas que ça devienne une version coach de Maxime Crépeau non plus. Tu sais, à partir du moment, c'est la première fois qu'il y a un coach du 11 Montréalais en MLS qui intéresserait, si on en avait besoin, un paquet de clubs en MLS. Moi, j'en suis convaincu. Il ne va pas te coûter une fortune. Il connaît la Ligue. C'est un gars qui parle anglais, qui parle français. Il a été imprégné de toute son expérience européenne, mais ça fait tellement longtemps qu'il est en Amérique du Nord. Il est ouvert à faire jouer des jeunes. Il a aussi de la personnalité. Moi, c'est de ce côté-là, je pense qu'il faut commencer à le voir aussi. Est-ce que tu t'arranges pour le garder? Parce que le jour où il y a une autre équipe d'expansion ou une équipe, comme j'ai dit, un entraîneur, puis que là, tu es sur une année d'option au mois de juillet 2023, et Wilfried Nancy, tu fais quoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas être par un mille de campagne, le coach du CF Montréal, du 11 Montréalais, qui a duré le plus longtemps de l'ère MLS. Bien, est-ce que tu commences à dire, de toute façon, mon temps va être compté, c'est une porte tournante d'entraîneur ici, je m'en vais ailleurs pendant que j'ai un bon capital de crédibilité et de sympathie en MLS? Bref, très, très hâte de voir ça. Moi, je pense que je suis clair depuis tout à l'heure. Je pense que c'est déjà dû, cette prolongation-là de contrat. Est-ce qu'on s'engage pour 3 ans? Ça, je ne le sais pas, mais un autre 2 ans ferme minimum, moi, je pense que tu as largement mérité ça si tu es Wilfried Nancy. Après, le montant des salaires des coachs, on ne les connaît pas. Ça, je n'ai aucune idée. Mais je pense que, ne serait-ce que pour l'engagement envers un gars qui a livré la marchandise, tout comme Olivier Renard, moi, je pense qu'on en est rendu là. Seb, tu voulais conclure là-dessus?
Oui, je voulais juste, peut-être que mon point n'était pas clair, mais la perspective de Wilfried Nancy, il y a aussi tout intérêt. Si lui, il parie sur ses joueurs et sur ce qu'il est capable de réaliser d'ici la fin de saison, lui aussi aurait tout intérêt à ne pas signer une prolongation tout de suite et être en position largement plus favorable en cas de très bon parcours de son équipe. Donc, dans ce jeu de négociation, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a peut-être, et genre, vraiment là je spécule complètement, un contrat qui serait sur la table, mais un Wilfried Nancy qui dirait, moi c'est pas maintenant que j'ai envie qu'on ait la discussion, puisque c'est une opportunité que je peux utiliser pour augmenter encore ma sphère d'influence ou d'autres choses qui seraient pertinentes pour lui. Donc il y a sa perspective à Wilfried Nancy, tout en sachant qu'aujourd'hui Wilfried Nancy, effectivement comme tu le dis, a un capital compétence et influence pour le reste qui est intéressant pour le reste de la ligue. Donc peut-être que, et ça c'est quand même à pas à écarter, puisque Wilfried Nancy n'a pas envie ou ne ressent pas le besoin d'avoir cette conversation-là maintenant.
D'avoir la conversation, parce que s'il y avait une offre sur la table, je présume qu'on aurait dit qu'il y a au moins des discussions d'amorcer, parce que ça, jamais ça a été dit. On parle simplement d'une année d'option, d'attendre, de voir. On n'est pas en train de dire qu'on a eu des discussions préliminaires. Donc ça, c'est le truc à entrer dans l'équation. Maintenant, tu as tout à fait raison, hein, de parier sur soi-même. Je pense que ce serait tout à fait admirable. Mais je reviens c'est ce que Nacho Piatti avait fait. Ça a pris combien de temps avant qu'on prenne un micro puis qu'on dise que finalement, les millions qu'on donnait à Nacho Piatti, on aurait pu les diviser en deux et en trois pour les donner à quelqu'un d'autre puis avoir une équipe plus équilibrée?
T'sais, il a eu ses millions, pareil.
Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on l'a regretté parce que le processus de négociation a été gagné par le joueur dans ce cas-là. Moi, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'en ce moment-là, tout le monde gagnerait. Le club n'aurait pas à payer un premium comme si tu t'en vas en finale de conférence, par exemple. Mettons là, que Nancy fait le même parcours que Mauro Biello, il se ramasse à une prolongation d'arriver en finale de MLS Cup. C'est sûr que c'est lui qui a le gros bout du bâton, mais à ce moment-là, le club, est-ce qu'il va avoir le sentiment d'avoir perdu ce pari-là? Ça, c'est malsain. C'est comme ça que le club fonctionnait dans le passé. C'est pour ça que j'aimerais tellement ça, voir qu'en ce moment, tout le monde prenne un petit peu moins. Peut-être que le club offre un petit peu plus, que ce soit en temps, que ce soit en salaire. Peut-être que Wilfried Nancy va chercher moins que ce qu'il serait capable d'aller chercher s'il fait une finale de conférence ou une finale de MLS Cup. Mais tout le monde est heureux de s'être engagé. Il n'y a personne qui gagne ou qui perd. Et ça, dans les négociations, depuis l'arrivée d'Olivier Renard, ça a été la révolution pour moi à Montréal. C'est pas comme ça que ça fonctionnait avant. Et c'est pour ça où je reste avec un point d'interrogation, à savoir pourquoi on n'est pas au moins en train de discuter en ce moment. Les gars, on va conclure là-dessus. Je veux vous entendre très rapidement avant de passer à notre segment en temps additionnel sur le marché des transferts en MLS cet été. À l'image de ce qui s'est passé en Europe, ça a été très mouvementé. Jean, tes conclusions de ce mercato-là, à part Gareth Bale qui marque des buts pour le LAFC maintenant puis qui se prend pour un gars qui joue à Southampton, c'est quoi dire comme conclusion?
Avec Gareth Bale, quand disons que le premier, mais il est annoncé depuis longtemps, c'est Insigne. Qu'il arrive avec Bernardeschi, c'est encore mieux. Que Chiellini décide d'arriver, c'est fantastique. Que Bale choisisse dans des conditions très particulières, mais qui sont importantes, puisqu'il s'agit de continuer dans une certaine dynamique d'ici la Coupe du Monde, c'est-à-dire avoir un niveau compétitif suffisamment intéressant et du temps de jeu suffisamment important pour être dans les meilleures conditions dans les trois mois, d'ici trois mois. Alors qu'il y avait des propositions, on dirait, beaucoup plus proches pour lui, en particulier Cardiff, on sait très bien. Mais qu'un garçon comme Ricky Puig, qui arrive et qui, toute la saison dernière, était dans les jeunes pousses de Barcelone, qui, au bout du compte, est un petit peu traîné un petit peu derrière les locomotives que pouvaient être Nico, Gavi, etc. Mais, il serait arrivé de toute façon, on l'a déjà vu plusieurs fois au Barça, il serait arrivé titulaire à un moment ou à un autre, ou en tout cas, il serait resté dans un environnement, peut-être dans un autre club, mais il y avait de quoi faire largement pour lui. Non, qu'il choisisse d'aller en MLS, je trouve que c'est quand même la marque de quelque chose de sérieux. Donc, tu peux te permettre de choisir, alors que tu es jeune dans ta carrière, d'aller faire le saut en MLS plutôt que de continuer en Liga, alors que tu aurais facilement pu le faire. Quand tu vois qu'il y a eu aussi, par exemple, des discussions concernant Lingard, qui à un moment avait des possibilités de venir, etc. Tu dis, OK, c'est sérieux au sens où ce n'est plus du tout la même dynamique et c'est un petit peu ce que la MLS voulait éviter, de se retrouver dans la dynamique d'il y a 30 ans où on veut faire venir des 32 ans et plus simplement pour le nom et pour un dernier cachet. Je pense que forcément, il va toujours y avoir cet effet-là parce que des joueurs qui vont. Actuellement, la dynamique du foot fait que le gros de ta carrière, tu vas le faire en Europe parce que c'est là qu'est l'argent. Et c'est là que tu vas avoir aussi tout le maximum d'exposition, d'accord ? Que ce soit pour rayonner au niveau, par ricochet, à nouveau au niveau dans ton pays, en jouant dans un autre championnat, ou enfin. C'est là vraiment que tout est concentré et c'est un miroir. Et la MLS va toujours être un petit peu en dehors de ça et faire en sorte que ce sera une porte de sortie pour des joueurs. Mais c'est aussi devenu, en même temps, un partenaire à part entière. Tu peux très bien maintenant négocier pour faire 2-3 ans de ta carrière là-bas, quitte à revenir. Dans le cas de Insigne, c'était bien avant que l'Italie soit éliminée de la Coupe du Monde, et ça n'a pas posé de problème du tout. L'aller-retour était facilement envisageable, donc il n'y a plus ce problème de distance. Il n'y a plus ce problème de distance à la fois physique et intellectuelle, parce qu'on reconnaît que tu ne vas pas en Amérique du Nord pour t'oublier, t'exiler. Ça reste, c'est quand même un des effets de nouveau monde, du nouveau monde global qu'on a, c'est que l'information, elle est là. Tu es parfaitement au courant de ce qu'il a fait la nuit dernière quand tu es en Europe et que tu regardes un petit peu les résultats. Donc, à ce niveau-là, MS est devenue beaucoup plus crédible. Elle est beaucoup plus… elle est allée rencontrer vraiment la situation du marché et de ce qu'elle représentait vis-à-vis de l'Europe. Alors, ça, c'est aussi un… On avait parlé du point ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y a 30 ans. Un autre point qui est important pour la MLS et pour Don Garber, c'est de se rapprocher le plus possible du standard européen. Et il y a toujours ce jeu de comparaison qu'on essaye de mettre et de montrer qu'on joue avec. Ça se rapproche. Je ne sais pas, ce n'est vraiment pas le point de la discussion là, de savoir si, où ça en est, mais ça se rapproche continuellement et la crédibilité va avec. Donc, je pense que c'est cette fenêtre de transfert, pour toutes ces raisons-là, est l'une des plus marquantes de l'histoire récente.
Ouais, et quand tu parles de Insigne et la perception en Italie, c'est franchement intéressant parce que c'est pas il y a 15 ans hein, que Giovinco est débarqué ici, puis tout d'un coup c'était mort. C'est terminé, on n'y réfléchit même plus de le ramener dans le giron de l'équipe nationale. C'était le feeling, du moins, qu'on avait en Italie lors de son passage à Toronto. En une petite minute, Sid, toi, ce mercato-là, tu le décris comment? C'est quoi tes conclusions?
Wow, en une minute. Je rejoins Jean sur certains points. C'est vrai que c'est sûrement le mercato le plus excitant de MLS sur le volume, peut-être pas sur la qualité intrinsèque de chaque joueur, parce que il y a eu des joueurs il y a 5 ans, 10 ans qui étaient phénoménaux, qui sont arrivés dans cette ligue, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'équipes, et je pense que c'est le fruit aussi, genre, comme de l'expansion avec le système de franchise et le fait que depuis 2015, les nouvelles franchises, parce que c'est pas vraiment le groupe, même si Seattle a fait son rôle, mais le groupe Montréal, Seattle, etc., comme vers 2010, c'est pas pareil que le groupe qui, Atlanta, Miami, LAFC, qui vraiment regarde l'Europe comme un partenaire. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Je retiens le mot partenaire de ce que dit Jean, parce que porte de sortie, ça on l'avait. C'est clair. Et porte d'entrée, ben, depuis 2 ans, et moi c'est ça qui m'intéresse plus pour moi dans le développement de cette ligue, c'est que c'est une porte d'entrée. Puis on aurait pu parler aujourd'hui d'un transfert de peut-être de 4 millions de Kone vers Norwich, et ça aurait été pour moi plus significatif finalement que l'arrivée de par exemple de joueurs qui ont été cités, sachant que on a un Slonina qui va aller à Chelsea. Ça aussi c'est extrêmement significatif de voir qu'un gardien qui a fait même pas 30 matchs en MLS pique l'intérêt de Chelsea. Maintenant, je trouve qu'il faudra faire très attention dans notre évaluation, parce que Slonina va à Chelsea, mais on a un Matt Nizaga qui revient, lui, techniquement de Chelsea, mais il revient de Chelsea avec 5 prêts à gauche à droite en Europe, ça ne s'étant jamais imposé en Première Ligue. Donc il faudra voir si comment le développement de la MLS va permettre. Faut plus de Aronson notamment, qui vient d'être à marquer avec Jesse Marsh, et plus à Jesse Marsh d'ailleurs. Je pense que pour arriver à ce statut de partenaire, il faudra plus de destin comme ça. La MLS est intéressante. La MLS paye en temps et en heure, offre des infrastructures comme de très 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 haut niveau, un cadre de vie qui est super agréable. Maintenant, il y a aussi l'idée qu'un Insigne est payé 3 fois plus qu'il serait payé en Serie A. Il y a des destins particuliers, donc parfois c'est difficile d'analyser ça de façon globale, et que individuellement, Enrique Puig, qui était à la cave avec Koeman et Xavi, tout d'un coup devient au centre d'un projet comme celui des Galaxies. Forcément, il est réceptif. Alors qu'il aurait été un joueur comme tant d'autres, à Benfica, à Sporting, à l'Ajax et dans plein de clubs dans lesquels son niveau de jeu peut l'amener. Donc, c'est toujours un peu à la pièce. Il faut voir un peu pourquoi chacun décide de venir en MLS. Globalement, comme je l'ai dit, pour le sujet du développement de la Ligue, moi, je vois deux choses. Les infrastructures, la valeur des franchises, donc ça c'est un, puis deux, le développement, parce que le développement de jeunes joueurs qui pour moi sont le meilleur exemple qu'il y a des Wilfried Nancy, il y a des Philippe Lafroy, il y a des grands techniciens formateurs dans cette ligue, et là je pense que c'est là que je trouve que cette ligue là a radicalement évolué aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est la question du niveau de jeu, j'étais parfaitement clair, pour moi c'est pas le but, et ça n'arrivera jamais. L'influx d'argent et la culture font en sorte que ça n'arrivera jamais, mais ça n'empêche pas de profiter de cette ligue et de l'apprécier.
En temps additionnel maintenant, Jean, on va commencer avec toi. Je réfléchis beaucoup à ce qui se passe du côté du FC Barcelone depuis un long bout de temps, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu différent cette année. La seule façon que j'ai trouvé de présenter ça, c'est que le Barça est passé maître dans l'art de faire du surplace à vitesse grand V.
Tout à fait. De se précipiter dans cette situation-là. Alors voilà, donc on était dans une situation très compliquée, même quasi catastrophique il y a un an, et on a l'impression d'être dans la même aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Barcelone actuellement n'a pas le droit d'enregistrer ses recrues pour le début du championnat qui commence ce samedi.
Et ces prolongations, exactement la même. Si je ne me trompe pas, Jean, oui. Les joueurs qui ont des contrats qui ont été renouvelés ou prolongés aussi, parce que renouvellement dans cette catégorie 5. Exact.
Exactement. Donc, c'est exactement la même situation que l'an dernier. Rappelle-toi comment, jusqu'à la veille du premier match de saison, on ne savait pas si Memphis allait jouer.
On a attendu pour Agüero. On a attendu longtemps pour Agüero parce qu'il était blessé et ça faisait notre affaire.
Exactement. On se retrouve exactement dans la même situation. On se retrouve dans la même situation, mais en plus, on le savait. On savait très bien, parce que ça n'a pas été annoncé la semaine dernière, que Barcelone allait avoir des limites dans sa capacité à recruter et à pouvoir un petit peu jouer financièrement. Mm-hmm. Il existe un certain nombre de règles qui ont été mises en place en Espagne depuis 2-3 ans, où, comment je dirais en fait, tu dois avoir des revenus qui équivalent, qui balancent le coût général de ton effectif, c'est-à-dire que ce soit dans les transferts ou dans les salaires. Tu ne peux pas avoir un qui est beaucoup plus haut, sinon tu as un mécanisme qui va t'empêcher de cette fuite en avant, en fait, et de continuer. Donc,
et c'est ça, Jean, excuse-moi, ouais. Je t'interromps juste pour apporter un petit bémol. C'était une des tactiques du FC Barcelone de vendre ses droits de télédiffusion futurs dès maintenant pour être capable de prendre cet argent-là puis le rentrer dans les livres comptables de 2022 en se disant « ben ça va compenser ». Puis la Liga a dit « non, là, vous êtes en train de faire une entourloupette. Vous utilisez l'argent d'années futures pour aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une portion, là, je ne connais pas tous les détails. » Mais le Barça a essayé. Écoute, la créativité des comptables du FC Barcelone, c'est extraordinaire, mais à quelque part, il faut aussi saluer la Liga qui dit non, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train de mettre en péril le futur pour espérer rester à flot aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait aussi planter le deal de Lionel Messi. Là. Je veux dire, c'est une version 2022
complètement
de ce qui a fait en sorte que Messi n'a pas été capable de signer alors qu'il était débarqué il y a un an à Barcelone pour signer une prolongation de contrat.
Oui, effectivement, c'était exactement ça. Donc, ce qui faisait que c'était à l'époque que le contrat était terminé. Tu te rappelles, nouveau contrat qui
devait être. Oui, tout à fait, tu as raison.
Ce n'était plus une prolongation. Et qui rentrait totalement là-dedans, justement. Alors oui, ce qui se passe, c'est que pour arriver à essayer d'équilibrer et à continuer à recruter, qu'est-ce qui s'est passé? Barcelone tente de vendre avec des entourloupes, en tout cas en essayant de. Ils ont interprété le règlement d'une façon différente de ce que la Ligue. La façon dont la Ligue l'interprète. Mais ce n'est pas tout. Ils vendent aussi une partie de leur maison de production. qui gère le produit d'image Barcelone. Ils vendent un certain nombre d'éléments Barça Studio et ils vendent une partie juste en dessous de 50% de la compagnie qui s'occupe du merchandising de Barcelone. En tout cas, ouais. C'est le fameux quatrième levier, c'est-à-dire la dernière partie de mesure pour récupérer des fonds et pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce dont on a parlé, qui devrait être annoncé ces jours-ci. On est mercredi au moment d'enregistrer l'émission. Je pense que ça devrait être annoncé jeudi, peut-être même plus tôt, vu qu'il y a une grosse urgence, puisque l'échéance, c'est samedi, avec le début de la saison. On parle donc d'un recrutement qui a été monumental. Lewandowski, Rafinha, Koundé, Kessié, Christensen. Il y a des transferts, il y a des joueurs qui sont arrivés librement, mais tous sont des salaires, et ces salaires-là sont maintenant rentrent dans l'équation qui va faire que la Ligue décide ou non d'accepter les joueurs. Et pour l'instant, donc, c'est un grand zéro. Donc, il y a des grosses négociations. Continuer de demander à certains joueurs d'accepter des baisses de salaire. On sait que l'année dernière, ça avait été un énorme un feuilleton et que on avait toute la grande histoire de Piqué, Busquets qui acceptaient des baisses de salaire. Je pense que ça continue actuellement. Il y a encore l'histoire qui a été la grosse histoire de quasiment tout l'été de Frankie de Jong, savoir ce qui se passe avec lui. Donc, pour l'instant, on est un petit peu à tourner en rond. Pas savoir si Barcelone va être capable de débloquer cet argent et d'arriver à comme un peu l'année dernière, à un accord de toute dernière minute. L'an dernier, c'était comme la veille au soir qu'on a pu être sûr qu'au moins des nouveaux joueurs, aller pouvoir débuter la saison. Je pense qu'on est pas mal dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce que Barcelone veut absolument se remettre sur le devant, veut faire, avec Lewandowski en particulier, un coup fort et une démonstration de force un peu publique et essaye de revenir d'une façon musclée sur le devant. On a vu l'an dernier qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Non. On a vu l'an dernier... quand même, avec Xavi, que l'équipe s'était replacée relativement aisément à la deuxième place et que la position en Ligue des Champions, la place pour la Ligue des Champions, c'est difficile de penser qu'elle va être mise en cause. Mais c'est autre chose que les dirigeants voulaient, qui est un coup de poing assez fort pour montrer non seulement on est là, mais on est prétendant en Espagne, on est prétendant en Ligue des Champions.
C'est super intéressant ce que tu dis là, le parallèle avec ce qui se passait d'un point de vue sportif qui était ultra encourageant l'an dernier, mais Mesken Club, hein? Fait que je pense que c'est là la démonstration de force du FC Barcelone qui va au-delà de ce qui se passait sur le terrain. On va changer de vitesse un peu, Sid, avec toi. Petite suggestion télé, es-tu devenu fan ou relationniste pour Mikel Arteta?
oui, ben c'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement j'avais envie de parler du documentaire All or Nothing, la série sportive produite par Amazon dans différents sports d'ailleurs, il y en a au moins 5-6 en NFL, mais qui depuis un moment fait beaucoup jaser dans le monde du foot parce qu'il y a eu Tottenham. Donc, il y a eu le All or Nothing de Tottenham qui est venu vraiment arriver à un certain niveau d'intérêt sur la communauté soccer que les éditions sur City, sur la Juventus, sur le Brésil n'avaient pas forcément généré. Et ça a créé une très grosse attente sur le All or Nothing d'Arsenal, sachant la saison rocambolesque qu'ils ont eu. Et donc les trois premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme et j'ai eu la chance de les écouter. Et puis ben effectivement c'est surtout Arteta qui est au centre du projet, du moins sur les premiers épisodes, et permet de découvrir une vraie belle tête de foot, l'ancien assistant de Pep Guardiola qui était aussi un joueur très très élégant, donc c'est pas surprenant non plus qu'il soit ce type d'entraîneur et qui dans un club comme Arsenal, dont on comprend aussi un peu plus la grandeur comparativement par exemple à un Tottenham qui est un club très important mais qu'on sent un peu plus moderne dans son importance, c'est vraiment c'est un must, comme on dit, comme on peut dire en bon québécois. Et puis j'ai à peine regardant ces premiers épisodes, ben j'ai hâte au prochain. Et puis je me demande quel autre club sera choisi, qui va vouloir y aller. Donc on arrive quand même à trouver le bon dosage entre forcément la grosse info pub et le côté documentaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on a accès au vestiaire, aux endroits médicaux, on a accès à plein de petites histoires, à la cantine, on a accès à plein de petites histoires. Effectivement, les joueurs sont conscients que les caméras sont là, mais on est dans une génération qui a toujours des caméras et toujours filmé. Donc, mm-hmm. c'est peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, la présence de caméras fait en sorte que les gens changent. Aujourd'hui, c'est plus une continuité même de leur comportement. C'est sûr qu'on peut faire attention parfois au langage ou autre, mais on est dans une intimité qui est vraiment super intéressante et super pertinente pour tous les fans de foot, pas besoin d'être fan d'Arsenal ou quoi que ce soit, pour apprécier ça. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, ben, il y a des nouveaux standards et on va donner le crédit à notre cher ami José Mourinho, parce que la saison de Tottenham avec Mourinho, mais aussi avec Lévy dans un contexte Covid qui a fait en sorte que le All or Nothing de Tottenham est incroyable vraiment, de voir qu'est-ce que dans un club comme Tottenham, que ça fait la Covid, c'est fascinant. Ça a mis des nouveaux standards qui font en sorte qu'aujourd'hui Amazon avec Arsenal a suivi ces mêmes standards. Et il y a aussi beaucoup de Thierry Henry dans le... Je spoil un peu, bon, c'est Arsenal, donc c'est pas non plus un gros spoiler, mais il y a aussi beaucoup de Thierry Henry dans tout ça, et c'est vraiment très intéressant. J'invite nos auditeurs à aller suivre tout ça.
T'as fait un bon pitch de vente et t'as dit la bonne chose. T'es pas obligé d'être un fan d'Arsenal pour apprécier ce documentaire-là. D'accord, OK, je vais l'écouter dans ce cas-là. Je te remercie beaucoup, Cyr. On va y aller. Maintenant. Vas-y, vas-y.
Je suis pas sûr qu'on soit prêt pour le All or Nothing de United. Donc,
on va y revenir. On va y revenir. Il y a une question là-dessus là, dans nos sujets chauds. Mais Jean, on va commencer avec une première question dans la foulée de ce que Sid vient de dire, parce qu'on parlait de José Mourinho et sa contribution pour le documentaire All or Nothing avec Tottenham. Il y a Louis-Alexandre Bouliane qui nous dit: Je sais, Oli, parler de José Mourinho, mais j'aimerais vous entendre sur les ambitions de la Roma, qui a fait un mercato intéressant avec Dybala, Wijnaldum, Belotti, qui sera bientôt officialisé. Est-ce que c'est un changement d'équilibre des forces en Italie, Jean?
Je pense que ce qu'on a vu l'année dernière, et c'est bien parce que c'était un bon moment pour parler de José et de la Roma.
Toujours un bon moment, selon vous.
C'est toujours un bon moment, mais on vient. Je trouve que l'année dernière de José Mourinho a été bon. Il y a eu un début un petit peu compliqué et il y a eu certainement un petit pétage de plomb en conférence. D'ailleurs, qui a fait que le club est allé la gagner, cette Europa conférence, et c'était un parcours très intéressant, un beau parcours. Mais il y a eu comme une sorte de, on va pas sortir les grands mots, rédemption, renouveau, mais on voit que c'est un José qui est quand même devenu, il s'est retrouvé une personnalité, il s'est retrouvé un air d'aller, si tu veux. C'est pas le personnage passif et abattu qu'on a vu terminer son parcours en première ligue, c'est quand même autre chose. Il est tombé dans un environnement qui lui convient, ou retomber, c'est pas son premier passage en Italie, et avec un groupe où ça a été un petit peu compliqué au début, je pense, mais où je pense qu'on a pu voir les choses évoluer clairement. Je pense à Tammy Abraham, qui a pris un volume assez impressionnant, à Smalling, qui s'est trouvé aussi une personnalité. On se demandait un petit peu pourquoi il partait à Rome. Toute une équipe autour, Zaniolo, Cristante, Pellegrini. Il y a une belle petite équipe qui est en train de se mettre en place. T'as l'arrivée de Dybala, qui va être Belotti certainement, qui vont être des plus. Donc la Roma, je la vois très certainement prétendre à une place. Une place en Ligue des Champions pour l'an prochain. Est-ce qu'elle peut rentrer, est-ce qu'elle peut viser plus haut au titre?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce que je pense que cette année, on devrait voir une réappropriation du côté de l'Inter et de Juventus, avec un point d'interrogation du côté de Juventus. Milan, ce sera très dur. Donc, est-ce que la Roma, qui part, je dirais, d'encore plus loin, peut se mêler à la course? Ce sera très, très difficile. Maintenant, je te dis, avec une série de bons résultats, un petit peu qui l'amène en bonne position, on ne sait jamais. Mais je pense que, clairement, c'est une équipe qui est capable de se battre pour une place en Ligue des Champions l'an prochain. Ça, c'est certain.
Avec la question du Dr Foot, Sid, on parle aussi d'objectifs d'atteindre les places européennes. Le Dr Foot nous demande, est-ce que le Man United d'Olivier terminera dans le top 5 de la Premier League? Moi, en ce moment, je gage certainement pas la maison là-dessus. Je ne sais pas si je mettrais 2 piastres là-dessus non plus, question de ne pas être trop déçu. Ten Hag, quand un nouvel entraîneur qui débarque, tu sais jamais, ça peut virer d'un côté comme de l'autre, mais je pense qu'il y a tellement de problèmes de fond à Manchester United que c'est pas simplement un coach qui va régler ça, ça va prendre plusieurs fenêtres de transfert et une grosse, grosse stabilité. Je pense que le dossier Cristiano Ronaldo est énorme là-dedans aussi. Toi, Sid, est-ce que tu les vois dans le top 5?
Oui, je les vois dans le top 5. Je pense que c'est une équipe qui a le talent pour. Je comprends la vision même de Ragnig qui disait qu'il fallait prendre 10 joueurs. Mais en même temps, tantôt je parle un peu du Covid et j'ai en tête l'équipe du Restart qui a été, je pense, première ou deuxième sur l'ensemble de l'année civile sous les Gunnar Solskjaer. C'est pas une équipe qui est radicalement différente de là. Je crois qu'en termes de talent qui va manquer, effectivement, Pogba et Greenwood ne sont plus dans l'équation et ça, c'est un moins. Mais c'est une équipe qui, je pense, radicalement manque de confiance dans un environnement qui est celui qu'elle a créé. Quand on est historiquement une des plus grosses équipes d'Angleterre et sûrement peut-être la plus grosse sur les 30 dernières années, l'environnement de la pression de la gagne elle est super intense. Si Ten Hag arrive à naviguer dans ça, et je pense qu'il a les épaules pour, il faut arriver à instiller de la confiance. C'est très loin d'être l'équipe qui est dépeinte parfois, où j'ai l'impression que, enfin, on aime ça aussi, genre comme dans la culture médiatique anglaise, cette espèce de banter FC, c'était Arsenal qui avait la cible sur son dos l'an passé, puis ça pouvait être Tottenham, on est à recherche de ça, puis là, la POC est arrivée dans la patate chaude est dans la main de United, véritablement, mais je regarde cette équipe un pour un en termes de son talent. Je pense que le plus dur, ce sera vraiment de ne pas céder à la panique du côté de Ten Hag, je pense, vraiment de faire fi de tout ce qui se dit, vraiment de jamais allumer sa télévision au niveau des pundits et autres, et d'aller au centre d'entraînement en fermant les fenêtres. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant du côté de United. Il y a un rythme effréné, effectivement, qui a été imposé par Liverpool et City depuis 3 ans, et que même Chelsea a du mal à suivre, notamment, même s'il y a eu des résultats en Europe. Mais du côté de United, le mercato n'est pas fini. Je pense que ce sera compliqué de faire la saison avec Fred et McTominay au milieu. Donc, si un autre numéro 6 Rabiot qui peut les challenger et qui est un petit peu au-dessus, notamment là, on parle de Rabiot, qui, je pense qu'une équipe comme United doit avoir un milieu un peu plus créatif. On a vu Eriksen descendre sur le dernier match, c'était assez intéressant, deuxième mi-temps. Donc, je pense que voilà, United, le plus gros pour United, ce sera vraiment d'arriver à faire fi de ce qui se dit et d'avancer tranquillement. Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de talent. Maintenant, ce que tu dis est très vrai. Structurellement, il y a beaucoup de choses à changer. Mais là, on peut bien dire Glazer out. Qu'est-ce que ça changera dans l'immédiat? Pas grand-chose. Mais l'effectif actuel, je pense qu'il est capable de compétitionner et largement. Il vaut Brighton, par exemple, qui est comme le week-end dernier. Donc, c'est là où j'ai peut-être la confiance, vraiment la confiance. Va être clé pour Ten Hag.
J'apporterai une petite précision pour le coach de United. Tu peux la garder allumée, ta télé. C'est quand tu vois Roy Keane à la télé qu'il faut que tu l'éteignes au plus vite parce que là, tu vas te faire démonter. Tu vas te faire couper en morceaux. Jean, on passe du côté de la France pour la prochaine question, celle de Jean-François Lepage qui dit « Quelles seraient les ambitions réalistes d'un club comme la JOCR qui revient en Ligue 1 après 10 ans passé en deuxième division? Un autre club formateur qui a lancé, entre autres, les Laurent Blanc, Djibril Cissé et Pedretti. est-ce que la survie, c'est l'objectif numéro un? Tu me diras que c'est cliché, là, tu veux t'acheter du temps, mais est-ce que tu vises autre chose que ça si tu es à 100?
Il oublie Eric Cantona aussi. Oui,
Jean, écoute. Tu me fais plaisir, tu fais ma journée là, avec ça. Parfait, tu peux continuer. Hey, ça, un all or nothing à l'époque avec Cantona, ça aurait pas été extraordinaire, ça?
OK. Je sais pas. Ouais,
c'est ça. OK, je on continue pas. Sur Roxanne.
Il y a eu beaucoup de temps passé en salle de montage.
Oui, un peu.
Non, ça encore. OK, bon. OK, Auxerre. Bah, écoute, Auxerre, c'était resté quoi? C'était des histoires marquantes des années 80 en France, on va dire, l'arrivée d'un club qui était un petit club local à la fin des années 70, qui fait deux extraordinaires parcours en Coupe de France et qui monte petit à petit, qu'on retrouve deuxième division, puis en première division, avec un budget moindre comparé aux autres équipes, puis qui s'installe, non seulement qui s'installe, mais qui fait très très bien, qui fait très bien au niveau des résultats et qui se fait reconnaître aussi parce qu'il était capable de former des jeunes joueurs de façon incroyable, des faits, leur faire tellement confiance qu'ils éclataient complètement en première division. Un entraîneur, Giroud, qui était reconnu partout comme une tête à ce niveau-là, parce qu'il était capable de reconnaître des jeunes, des tout jeunes, les amener à Auxerre et de les faire franchir ce palier vers la première division, et ensuite de les amener au plus haut niveau. Hein, qu'on parle de Cantona, de Boli, de Garde, qui non seulement ont été des piliers du club, des piliers de n'importe quel club en première division, de l'équipe de France, et qui ont connu une carrière internationale aussi. Donc, c'est franchement, les avoir amenés au plus haut niveau de tout petit. Donc, ça, c'était un petit peu la marque de cachet de Auxerre. C'est parti, Giroud est parti. Le club est tombé dans une situation où il ne pouvait plus vraiment se conserver là indéfiniment et était incapable de se mettre à la hauteur un petit peu de l'air du temps et de la façon dont les autres se sont renouvelés. Ils sont tombés en deuxième division, mais c'est là le problème a été parce que généralement, l'idée, c'est de rester un an, deux ans, rebondir. Ça ne s'est pas passé, ils sont restés deux ans. Financièrement, c'était vraiment là, le club a clairement perdu beaucoup et se retrouve là. Ils remontent cette année après un barrage gagné contre Saint-Étienne. Ça a été d'ailleurs un truc absolument épique en France, ce barrage contre Saint-Étienne. Et Auxerre se retrouve là avec vraiment des petits moyens. Un entraîneur, Jean-Marc Furlan, qui est pas mal, hein, qui est quelqu'un de connu, qui a fait du bon travail à Troyes, à Brest. Pour monter l'équipe, d'abord l'amener à un niveau supérieur, la faire durer, puis la faire un petit peu se développer, rayonner. Donc je pense que ça va être un petit peu l'ambition qu'il a cette année, c'est-à-dire le maintien et essayer de redonner à Auxerre une sorte de rayonnement en première division, pas tel qu'il l'était avant, mais lui redonner sa place en première division.
Sid, on va conclure avec une question de Martin Levac. Je ne sais pas si la comparaison va te faire plaisir parce que tu as dit texto tout à l'heure que c'est les genres de comparaisons qui sont compliquées à faire. Mais il y a deux portions de la question de Martin et il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. La première, c'est est-ce que le nouveau LAFC avec les acquisitions aurait le standard pour jouer dans un des cinq plus gros marchés européens? Et la deuxième portion est intéressante aussi. Si oui, quels autres marchés de MLS actuellement ont ce genre de rythme-là? Je pense que LAFC, cette année, est dans une autre catégorie, mais tu sais, quand tu regardes l'Est et l'Ouest, je sais que tu vois beaucoup plus de qualité dans l'Ouest. Je ne pense pas que Philadelphie, malgré ses bons résultats, se compare au LAFC. Donc, comment tu répondrais à ces questions-là?
Ben, OK. Oui. Mais il serait relégué. c'est pas comment, si ça répond vraiment bien à la question de notre auditeur. Je pense que la profondeur de ces équipes-là est largement insuffisante pour compétitionner dans les plus grands clubs, dans les plus grandes ligues. C'est juste vraiment une question d'argent. On est dans un système qui structurellement permet son développement, mais en même temps le bride. avec le plafond salarial. Il faudra juste commencer à regarder à partir du 7e, 8e salaire d'un club, et on voit la différence qui se fait entre les plus grandes ligues et la MLS. Donc je pense que c'est là qu'est la difficulté sur une saison de 34 ou 38 matchs, dépendamment de la configuration. Donc sur un match, bien sûr, tout peut arriver. Et puis c'est clair qu'on voit qu'il y a des coachs qui sont... Enfin, qui parlent football et qui ont vraiment largement amélioré le niveau tactique de la ligue, et on peut, je pense que Seattle, en gagnant aussi la Ligue des Champions contre CACAF, est aussi l'un des symboles de cette évolution qui date depuis de plusieurs années. Cette édition de l'LFC m'impressionne pas plus que ça pour le moment encore. Je trouve que, comme il y a deux ans par exemple, genre, j'ai trouvé largement supérieure. C'était cette équipe là qui aurait dû gagner la Ligue des Champions contre CACAF, parce que vraiment le jeu, la manière dont ils jouaient contre les équipes mexicaines, c'était vraiment un niveau super super élevé. Mais voilà, donc, mais en disant ça, c'est ça, je pense que parfois il y en a qui prennent mal ce commentaire, mais c'est juste une question de vraiment d'influx d'argent et de culture qui est pas encore au même niveau, et qui maintenant, il y a une chose que j'ai pas dit tantôt en répondant à Jean, mais j'aimerais ajouter, maintenant la MLS aura un gros problème de retenir son talent. Parce que de plus en plus qu'elle est perçue comme un partenaire crédible, de plus en plus on va avoir des cas de gens qui viendront faire un an, deux ans, et qui repartiront. Et là, ce sera encore plus compliqué pour la MLS de se rapprocher des très grandes ligues, parce que finalement, elle sera victime de son succès, et que comme Wilfried Nancy a dit à Castellanos en début de saison, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est cette question-là, elle sera posée à plein d'autres talents de la ligue, et il y aura un gros défi pour la MLS de se positionner pour attirer le talent sud-américain, attirer un certain talent européen, le conserver dans les structures réglementaires de la ligue. Ce sera extrêmement compliqué, et donc ça créera ou maintiendra l'écart qu'il y a avec les grosses ligues européennes.
Je retiens deux choses. Il y a personne qui fait 90 000 piastres par année à Brentford. Je pense que c'est ça, là, ce que tu viens de résumer. Les gens font, il y en a plusieurs qui font 90 000 piastres par semaine ou par mois à Brentford. Yeah. C'est pas par année, et c'est la réalité de la MLS, parce que tu es obligé, avec la réalité du cap salarial, d'avoir des joueurs qui font ce salaire-là. Ça veut pas dire qu'un jour ils feront pas des millions, mais quand tu les as sous la main, ils valent ce qu'ils valent. L'autre truc, c'est que tu as raison, peut-être que l'AFC, il y a quelques années, était meilleur, mais à cette époque-là, tu n'avais pas Giorgio Chiellini qui jouait au volleyball en plein match sur le terrain. Et ça donne un charme au LAFC de 2022. Giorgio Chiellini, le parfait équilibre entre sourire, clown, qui te donne envie d'aller prendre un petit verre de vin ou un souper tranquille avec lui pour jaser puis avoir du plaisir, et le look d'un assassin qui va te casser en deux avec un tacle par derrière. Je ne sais pas comment je me sens quand je pense à Giorgio Chiellini, mais bref, ça fait une pioche franchement divertissante. Les gars, en terminant, vous allez surveiller quoi au cours de la prochaine semaine? Jean, on commence avec toi.
Peter Hook à Montréal. Pour les fans de New Order, Joy Division, Peter Hook à Montréal. C'est ça. Okay. Après, il y a Chelsea-Tottenham dimanche. Chelsea, parce que c'est compliqué après Abramovich arrivé de Ted Bowley. Et puis Tottenham, parce qu'on nous les présente comme l'équipe peut-être qui peut venir bousculer la dualité Liverpool-City. Donc, je suis regardé un petit peu voir comment ils sont là en tout début de saison. Et puis, ouais, mais Peter Hook.
C'est...
je vais tricher un peu en parlant du match de samedi avec ce voyage à Houston, mais c'est vrai qu'il y a le début de la Serie A cette fin de semaine, ainsi que la Liga. Yeah. Donc on va surveiller ça aussi avec impatience, voir quelle équipe va pouvoir aligner le FC Barcelone notamment.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la Liga est de retour sur nos plateformes à RDS, que ce soit sur le rds.ca, RDS Direct ou à la télé, à proprement dit. Donc, bien, bien hâte. Je sais, Jean, tu y seras avec Claudine en fin de semaine. Pour ma part, je serai à vos côtés le 21. Donc, on est relancé pour une deuxième saison consécutive de la Liga espagnole sur les ondes de RDS. Les gars, merci beaucoup. Toujours un grand plaisir de jaser avec vous. Un gros merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'est un énorme plaisir de vous retrouver après nos vacances estivales. On est officiellement dans ce droit, peut-être pas le dernier, mais ça reste un droit vers la Coupe du Monde. On aura un paquet de bons contenus pour vous au cours des prochains mois. On vous invite à nous poser vos questions sur le Twitter avec le hashtag LDSF. On vous invite aussi à partager le contenu sur le rds.ca/baladodiffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.